bonjour à chacune, à chacun. Alors, est-ce que vous connaissez Petit Jacques. Puis il y a aussi son copain Grand Jacques. Et puis, il y a aussi Top Jacques. Ça, c'est les trois Jacques de la Bible. On les appelait Jacques le mineur, Jacques le majeur et Jacques le juste. Et nous, aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que Top Jacques nous dit. Jacques le juste. Parce qu'il est arrivé au top. Au top, c'est-à-dire dans son épître, ce qu'il appelle téléios. Quelqu'un d'accompli, quelqu'un de mûr. Et voilà une épître dans laquelle on va se lancer parce que c'est une épître qui nous dit « Bon, il y en a assez d'être des chrétiens de pacotille. Il y en a assez d'être des chrétiens immatures. Il est temps de devenir grand. Il est temps d'être au top avec le Seigneur et d'être un chrétien mûr. » Luther a appelé l'épître de Jacques une épître de paille parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas de doctrine dedans. Et effectivement, c'est une épître très pratique. Et j'ai envie de dire, dans cette épître, il s'agit d'arrêter d'être des chrétiens de paille. Le Seigneur nous a donné un fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous devons prendre garde comment nous bâtissons sur ce fondement. Est-ce qu'on bâtit avec de la paille? Puis une allumette, ça brûle. Du foin, du chaume, du bois. Un peu plus solide, mais ça brûle aussi. Ou bien nous demande la parole de Dieu, est-ce que nous bâtissons avec des matériaux qui résistent, avec de l'argent, avec de l'or, avec des pierres précieuses. Le chrétien de paille, c'est celui qui dans sa vie va constamment manquer de maturité, être immature dans plein de domaines. Et dans l'épître de Jacques, on va être comme sur un ring de boxe. Tiens, on commence par là, bam! Et puis maintenant, tel domaine, bam! Et à chaque fois, dans son épître, il nous envoie des uppercuts là, bien placés, justifiés, en disant, écoute, tu veux être constamment quelqu'un qui est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Voilà. Tu navigues par-ci, par-là, un petit morceau de bois à la dérive qui va là où le vent le pousse, là où les vagues le mènent. Parce qu'il n'a pas de cap. Mais il y en a assez d'être un chrétien qui n'a pas de cap, qui n'a pas de direction, qui ne sait pas où il va. Même si le vent souffle, eh ben il garde le cap. Il va dans telle direction, parfois le vent est favorable, parfois le vent est contraire, parfois il n'y a pas de vent du tout. Mais il sait où il va. Dans la direction du Seigneur. Et il met en œuvre dans sa vie ce qui est nécessaire pour cela. Il dit, stop d'être un chrétien un peu ballotté à droite à gauche et en fait, il n'y a pas vraiment de cap de direction et on n'arrive nulle part. 10 ans après, vous êtes quelque part au milieu de la mer, on ne sait pas trop où. 20 ans après, c'est pareil. Parce qu'il y a des décisions à prendre, il y a des positionnements spirituels à avoir et à mettre en œuvre résolument dans notre vie. Alors, je vous invite, dans les mois qui viennent, à découvrir les hypercutes de l'épître de Jacques, les uns après les autres. On va en voir un seul ce matin. Et puis, on aura le temps, peut-être tous les mois, on avancera une fois par mois, puis ça nous laissera un mois devant nous pour encaisser le coup peut-être, et puis nous mettre devant le Seigneur et dire: Seigneur, j'en suis où vis-à-vis de la maturité à laquelle tu m'appelles dans ce domaine. Aujourd'hui, ça sera la maturité face aux épreuves de la vie. Plus tard, ça sera la maturité face aux tentations du péché. Ça sera la maturité sur le contrôle de mes paroles. Ça sera la maturité par rapport au bien matériel. Ça sera la maturité sur le regard que je pose sur l'autre, etc. On va en prendre un peu de partout pour être des joyaux dans les mains du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on reste là, ballottés à droite à gauche, mais pour qu'on devienne, ainsi qu'il est écrit au verset 4, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parfaits, accomplis sans faillir en rien. Et voilà pourquoi c'est Top Jack. C'était qui ce Jacques? C'était pas l'un des deux disciples de Jésus. Il y avait deux des douze qui s'appelaient Jacques. Et lui, il faisait pas partie des douze disciples. Lui, il a eu besoin d'apprendre la maturité. Parce qu'au départ, il était contre Jésus. Il dit, mais Jésus, c'est mon frangin. Jésus, j'ai grandi avec, c'est mon grand frère. Et oui, parce que Top Jack, c'est le fils de Marie et de Joseph. Sans doute le fils aîné que Joseph a eu avec Marie après la naissance virginale de Jésus. Et la parole nous montre que effectivement ce Jacques-là, Jésus avait des frères et sœurs, leurs noms nous sont donnés dans la parole de Dieu, et celui-là, c'est le frère de Jésus. Et les évangiles nous disent que ses frères ne croyaient pas en lui. Quand Jésus fait les œuvres, fait son ministère, même ses frères et sœurs, à un moment, ils arrivent pour l'empêcher, ils disent, mais il a perdu la raison, il est fou, je ne sais pas dans quel trip il est là, mais ça va pas, faut l'arrêter. Ils ne comprenaient pas. Peut-être chez Jacques, il y avait un petit peu d'amertume. Là, tout d'un coup, il voit Jésus commencer à faire des miracles, il se dit, disons, mais c'est quoi ce faiseur de miracles, là, tout d'un coup, il ne pouvait pas en faire, là, quand mon père est mort. Et oui, parce que on voit que Marie se retrouve seule, va être d'ailleurs recueillie par l'apôtre Jean, hein, et on en déduit que Joseph, à un moment, est décédé. Il y a eu dans cette famille un moment du deuil, des larmes, du chagrin, une épreuve. Et peut-être Jacques, quand il voit Jésus se lancer dans les miracles, peut-être ça lui fait un peu drôle. Peut-être il se dit, mais dis donc, il pouvait pas faire ça pour mon papa Joseph. Oui, peut-être qu'il l'aimait pas assez, c'était pas son père. Hein. Oui, parce qu'il y avait des rumeurs. Hein. les rumeurs du fait que non, c'était pas Joseph, le père biologique de Jésus. Jacques, ça avait du mal à passer, ça. Hein? Certainement. Hein? Les rapports avec ce frère un peu bizarre, sorti d'on ne sait où. Et puis, Jésus va apparaître à son frère Jacques, ressuscité. Il a apparu à Jacques. Et là, le regard de Jacques change complètement. Désormais, pour lui, quand il considère Jésus, 1 plus 1 ne fait pas 2. 1 plus 1 fait 1. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes 1. Et Jacques découvre et réalise que ce grand frère qui a vécu à ses côtés, qui a grandi à ses côtés, lui et le Père, ils sont un. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu habiter parmi les hommes dans une famille avec des frères et sœurs et qui a été parfait en toutes choses. Et Jacques, à ce moment-là, se convertit. Il ne se définit plus comme le frère du Seigneur, mais comme son esclave, comme son serviteur. Et Jacques, nous le retrouvons 10 ans après sa conversion, en train d'écrire cette épître, et il est devenu le principal pasteur de l'église de Jérusalem. À chaque fois qu'il y a une décision, on le voit dans le concile, à chaque fois qu'il y a une nouvelle importante, on dit, dites-le à Jacques et puis aux frères. Et puis les anciens se réunissent chez Jacques. Au niveau de Jérusalem et au niveau des Juifs devenus chrétiens, Jacques est devenu le principal berger à Jérusalem. Il a mûri. Il a mûri. Il est passé par ce chemin où le Seigneur nous façonne et où l'on met sa vie en règle, en obéissance avec le Seigneur dans les différents domaines pour ne plus être un homme de paille, mais pour être un soldat de Jésus-Christ solide. Et c'est ce qu'il est devenu. Il dirigera le troupeau, sans doute jusqu'à sa mort en martyr. Et parce qu'il était attentif à obéir au Seigneur et à être mûr dans les différents domaines de sa vie, il a été surnommé Jacques le Juste. Et il est donc en train d'être utilisé par le Seigneur pour nous donner à nous aujourd'hui ce message, d'abord destiné à ses frères juifs, mais que nous pouvons reprendre bien sûr à notre compte dans ses dimensions morales, nous enseigner la maturité. Alors, ça c'est une question par laquelle on peut commencer. Est-ce que je veux devenir un chrétien mûr? Et là, on peut, si on est honnête, dire en fait non, j'ai pas envie. J'ai pas vraiment envie. J'ai pas vraiment envie parce que ça va m'amener à, ça m'amènerait à des décisions, ça m'amènerait à des, peut-être des sacrifices sur la chair, ça m'amènerait à un bouleversement. Moi, je suis bien en chrétien de paille, ça me suffit. On passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. lorsqu'on passe à côté de la maturité en Jésus-Christ. On est, quand on passe à côté, on est comme ce gars au verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le terme, c'est du psycho, c'est-à-dire double d'esprit, double de cœur. On veut le beurre, l'argent du beurre, on veut le salut en Jésus-Christ, mais la vie dans le monde, on veut poursuivre deux directions opposées, où l'apôtre Jean disait, ben, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu, ce n'est pas possible, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et toi, tu es irrésolu, inconstant, un coup tu suis le Seigneur, mais tu ne le suis pas trop près non plus, parce que ça... Qu'est-ce qu'on veut ? Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons besoin de nous poser cette question et de nous placer devant Jésus. Est-ce que je veux laisser le Seigneur Jésus m'apprendre à ne plus être un chrétien qui manque de maturité, mais le laisser m'apprendre, me construire en chrétien parfait, accompli, sans faillir en rien. Si nous avons du mal, disons-le au Seigneur. Seigneur, j'ai du mal à prendre cette décision, mais je veux la prendre. J'ai chanté le jour de mon baptême, en tout cas, c'est ce que ça représentait en mon cœur. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ, oui, pour toujours. Et Seigneur, je vais te suivre sur le chemin de la maturité. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vivre par ton esprit, à vaincre par ton esprit. Alors, nous commençons par le premier uppercut du jour. Nous lisons ensemble. Jacques chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la diaspora. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Alors d'abord, la première chose surprenante et claquante dans cette lettre que Jacques écrit, c'est sa salutation, qui est extrêmement mal traduite ici. Salut ! Non, ce n'est pas le mot ici. C'est la seule épître où ce n'est pas le mot ici. Salut, ça veut dire besoin d'être sauvé. je te souhaite le salut, d'être sauvé. Ici, c'est pas du tout le mot qui est employé. Ici, la salutation, c'est joie. Karein, réjouissez-vous. Une introduction inhabituelle et absolument unique dans les épîtres. Il commence en disant aux frères et sœurs, joie. Puis après, il leur parle des épreuves. Ben oui. Joie. Alors, quel est le premier des domaines où le Seigneur veut que nous prenions position pour marcher dans la maturité? Eh bien, le premier uppercut qu'on prend, c'est comment on va considérer les épreuves de la vie qui surviennent. Il dit, vous voulez arrêter d'être des chrétiens de paille, il va falloir maintenant changer votre façon de considérer, de regarder les épreuves. Alors, Jacques, il est passé par des tas d'épreuves. Il sait de quoi il parle. Jésus nous a précédés sur ce chemin. Il est passé par des tas d'épreuves et de difficultés. Amen.
Amen.
Et savez-vous quoi? Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, il nous arrivera toujours à un moment ou à un autre des choses douloureuses dans notre vie, dans notre existence. À un moment, ce sera la maladie. Si ce n'est pas votre maladie, ça sera la maladie de quelqu'un qui vous est proche. À un moment, ça sera la perte d'un être cher. Ça sera peut-être des difficultés financières. Ça sera peut-être des relations très compliquées au niveau du travail, avec une pression. C'est peut-être la perte de son travail, le chômage. C'est peut-être des problèmes familiaux, des disputes familiales. Et on peut continuer comme ça la liste de toutes les choses difficiles et douloureuses qu'on peut vivre, traverser. Ça sera peut-être un divorce que vous n'auriez pas souhaité. C'est peut-être un accident de voiture. On peut continuer la liste. Des tas de choses qui nous arrivent et qui nous font mal. Les épreuves de la vie. Et là, le message qui nous est adressé, c'est que l'épreuve ne s'oppose pas à la joie. L'épreuve ne s'oppose pas à la joie. Nous, pour nous, la joie, c'est quand on n'a aucun problème. Pour avoir de la joie, il faut avoir une existence où on a réussi à enlever tous les trucs un peu douloureux, nocifs, etc. J'ai réussi à les éliminer, alors là, c'est la joie. Mais ça, c'est une joie qui dépend des circonstances. Et le message ici, qui est un message précieux, c'est un message d'espérance, c'est de dire « mais non, mais t'inquiète pas ». La joie et l'épreuve, ça n'a rien à voir. La joie, oui, l'épreuve ne s'oppose pas à la joie. Et c'est pour ça qu'il dit joie. Réjouissez-vous. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, il s'agit de ne pas confondre la joie et la gaieté. La gaieté, ça va bien, tout va bien, on a envie de siffler, la pêche, quoi. Ça, c'est la gaieté. Et tant mieux, quand on a des moments de gaieté, c'est formidable. La joie, c'est pas la gaieté. La joie biblique, c'est pas du tout la gaieté. C'est quelque chose qui, même au sein de l'épreuve et même au sein de la souffrance, existe au fond du cœur, une paix, une assurance et un regard posé sur quelque chose qui a de la valeur et qui nous réjouit parce qu'il y a quelque chose de précieux. Un regard posé sur quelque chose de précieux. Alors, ici, il nous est dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Le voilà, le coup de poing. Nous, quand il nous arrive un problème, une épreuve, on voit tout en noir, on considère ce qui ne va pas, l'aspect négatif, etc. Et c'est vrai. Ce qui fait mal, on ne changera pas ça. On ne va pas commencer à devenir un peu bizarre en disant « Oh non, ça fait pas mal. » Si, ce qui fait mal, ça fait mal. Ce qui fait du chagrin, ça fait du chagrin. Oui. Mais voilà quelque chose de surprenant. Il dit, si vous voulez devenir des chrétiens mûrs, vous allez commencer par changer maintenant ce regard négatif que vous posez sur les épreuves. Et vous allez poser un regard juste. Parce que le regard que vous posez, il n'est pas juste. Vous allez apprendre à poser sur les épreuves qui surviennent le regard que je veux que vous posiez dessus. Vous allez voir l'épreuve comme je veux que vous la voyez, parce que c'est comme ça qu'elle est. Et ultimement, vous allez la considérer comme un sujet de joie complète. Oh, alors là, on en a pris une. Un sujet de joie complète. La maturité, ça commence... Hein ? Chrétien de paille ou chrétien mûr ? Bam, ça attaque fort. Sur un sujet qui nous tient le plus à cœur, c'est la souffrance dans notre existence. Il dit, écoute... Si tu changes ton regard, tu vas pouvoir tenir la route. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas pouvoir rester dans la joie. Tu vas pouvoir traverser l'épreuve. Tu vas pouvoir recevoir la couronne de vie. Et tu vas pouvoir devenir quelqu'un de solide et d'ancré. Pourquoi ? Bien parce que le Seigneur nous apprend que les épreuves de la vie, les événements douloureux, elles ont une utilité incontournable dans notre vie. On ne peut pas les contourner. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Dieu se sert des épreuves pour nous construire, pour nous façonner, pour nous mûrir, pour faire de nous des personnes parfaites, c'est-à-dire arrivées à maturation, sans faillir en rien. On va prendre l'exemple des métaux. L'acier trempé. On fabrique de l'acier et puis on lui fait subir, donc on le fait chauffer et puis après on le plonge dans de l'eau froide tour à tour. Parce que le fait de le faire chauffer chimiquement, ça... Bon, je ne suis pas un expert. Les molécules se font je ne sais pas quoi, puis hop, le bain glacé, après, ça fige le truc. En tout cas, à la fin, le fait de le chauffer, puis de le tremper dans l'eau, puis de le chauffer, de le tremper dans l'eau, cet acier trempé qui est passé par l'épreuve, c'est un acier solide et dur. Plus solide qu'avant. Mais il n'y a que le passage par le feu puis par l'eau. Il n'y a que parce qu'on lui fait subir que à l'intérieur de la structure interne vraiment du matériau, hop, ça se construit, ça se forge, parfait accompli, sans faillir en rien. Une autre méthode dans les métaux, paraît-il, consiste à ce qu'on appelle l'écrouissage. Si ma mémoire est bonne, ça consiste à le déformer et à le marteler, à le fracasser, on le tape dessus. Bam, ça s'en prend plein la tête. Et le but, c'est de créer à l'intérieur de la structure interne des dislocations qui en fait bloqueront les dislocations futures, si j'ai bien tout compris. Donc on le martèle pour que les dislocations à l'intérieur fassent que, une fois ce métal terminé, écroui, eh bien justement de les pressions qu'on va exercer sur ce métal, eh ben, les dislocations internes déjà existantes vont empêcher le métal de casser. En attendant, ça martèle. Il y a une réalité que le Seigneur veut que nous considérions, c'est que une partie de sa pédagogie utilise les épreuves de la vie. Évidemment, nous, on ne préférerait pas. Et il y a des choses que le Seigneur construit autrement que par l'épreuve. Il n'y a pas que l'épreuve dans sa pédagogie. Mais il dit, écoute, moi je veux t'emmener à ma ressemblance. Je veux que tu puisses, dans ton être intérieur, me refléter, briller. C'est parce qu'on chante « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Mais sans l'épreuve, Seigneur. On se méfiera la prochaine fois qu'on chante ce cantique. Parce que quand on dit c'est mon espoir suprême, alors il faut être prêt à accepter la pédagogie du Seigneur, et cette pédagogie va passer à un moment par utiliser les souffrances et les douleurs de l'existence pour forger en nous le caractère de Jésus-Christ, pour que nous puissions ressortir comme l'acier trempé, solide, résistant, plus qu'avant. Et ça, c'est ce que Jésus accomplit avec nous par l'épreuve. Amen. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il veut accomplir. Mais il faut notre participation. Parce qu'attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut subir des épreuves à l'appel. Mais rester un chrétien de paille. On peut subir des épreuves à l'appel et ne jamais devenir un chrétien mûr, solide et ancré. Non, on peut rester comme celui qui est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, qui ballotte à droite, à gauche. C'est quoi la clé? La clé, c'est être partie prenante de la pédagogie que le Seigneur met en œuvre. Le Seigneur, il dit, voilà où je veux t'emmener. Je veux t'emmener à ma ressemblance. Dans ta vie, je veux faire de toi un joyau. Je veux faire de toi une pierre précieuse.
et je vais le faire en taillant par l'épreuve. Mais regarde le joyau que tu vas être à la fin. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Donc, je dirais ce processus par lequel le Seigneur va nous faire passer. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, l'épreuve de votre foi produit. Elle produit. Il y a un fruit. Un des beaux versets de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus même, je n'ai plus exactement en tête ni je ne sais où il se trouve, mais il parle de la femme qui attend un bébé et qui passe par des souffrances et qui a mal, etc. Mais Jésus dit, une fois qu'elle a mis ce bébé au monde, toute sa souffrance est oubliée à cause de la joie d'avoir mis un homme au monde. C'est un petit peu ça. La grossesse, ben, ça peut être très désagréable, on a les vomissements, on a les nausées, on a le corps qui part dans tous les sens, etc. Et puis on devient avec un gros ventre qui nous empêche de nous mouvoir, et puis on dort mal, on ne sait plus comment se tourner. Et puis après, on arrive avec les contractions, et puis il y a l'accouchement lui-même. Mais toutes ces choses, on est prêt à les vivre, on est prêt à traverser, parce qu'à l'issue, au bout du bout, il y a un bébé. Et ce bébé, c'est une joie, c'est quelque chose, c'est le bébé. Et la joie qu'il y a là, ça vaut la peine. Le chemin est douloureux, mais ça produit quelque chose qui justifie, qui dit ouais, ça vaut justement la peine, au sens propre, la peine qu'on en a. Et Jésus dit, une fois que le bébé est né, la joie que cette femme a, ça balaye tout le reste. Il dit, c'est ce regard-là que je veux que vous posiez sur les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ce regard du fruit de la fin, vous savez, sachant que l'épreuve, sachant, vous le savez. Et ça, frères et sœurs, mais c'est le trésor que nous avons de connaître Jésus-Christ. Parce que les gens qui sont sans Dieu et sans sauveur dans ce monde, vous croyez qu'ils n'ont pas des épreuves de la vie, de l'existence ? Mais quel sens elles ont pour eux ? Nous, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il nous le dit. On le répète ? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on sait que les épreuves, on sait que les choses douloureuses, elles sont dans la main du Seigneur. Oui, elles sont dans sa main, elles ont du sens, elles ont une raison, elles ne sont pas là, en vain. Genre, oh ben c'est là, mais en fait, ça ne sert à rien, tu vois, c'est là, mais ça n'aurait pas été là, ça aurait été pareil, en fait, c'est un élément inutile. Non, avec le Seigneur, si c'est là, c'est que ce n'est pas inutile. Si c'est là, c'est que ça a du sens. C'est que ça a de la valeur. Et il nous dit, concentrez votre regard, décidez de croire quand je vous dis que ce que je permets comme épreuve, comme souffrance, c'est pas pour rien, c'est dans ma main, ça a du sens, ça a de la valeur, et il y a un fruit qui mérite que vous vous réjouissiez même par avance. Que vous vous réjouissiez comme ce bébé qu'on attend, il n'est pas encore là, mais on s'en réjouit. Il dit, ben, c'est pareil, c'est pas encore là. Mais tu peux décider de te réjouir de ce que ça va produire dans ton cœur, dans ta vie, parce que c'est un beau fruit qui vaut la peine. Tout ce qui a de la valeur coûte. Alors je peux décider d'être un chrétien qui se construit avec des trucs de pacotille. Si vous achetez un collier à la halle aux chaussures, il vaudra 5 euros et il ne vaudra que 5 euros. Vous en aurez pour votre argent. Le jour où le collier va se casser, je ne suis pas bien sûr que vous allez le faire réparer. Parce que la réparation vous coûterait bien plus cher que le prix du collier. Oui ? Ben, si vous voulez quelque chose qui a vraiment de la valeur, ce qui a de la valeur coûte. C'est comme ça dans la vie, oui ou non ? Hein ? Et si on veut vraiment quelque chose qui a de la valeur, il va falloir y mettre le prix, il va falloir payer, ça coûte. À l'intérieur de notre cœur, c'est la même chose. Les choses qui ont vraiment de la valeur, ça coûte. Hier, j'étais à nouveau très ému, c'est pas la première fois que je vois ça, mais j'étais dans la galerie marchande et j'attendais, puis il y a un monsieur... peut-être d'une soixantaine d'années, qui attendait également, et il avait un fauteuil roulant entre les mains, et dans ce fauteuil roulant, il y avait son fils, peut-être de 25 ou 30 ans, un polyhandicapé. Et ce jeune homme était tout tordu, et puis il poussait des cris, il gesticulait, et il y avait ce papa qui se tenait là tranquillement, sans honte, fier. Puis à un moment, quand son fils commence à pousser des cris, à s'agiter, il se penche et puis il lui fait un bisou sur la joue. Puis il se redresse et puis voilà. Et là, quand vous voyez de tels épisodes, ça, c'est de l'amour. Vous savez, c'est pas l'amour d'Hollywood, c'est pas l'amour. Des fois, vous voyez des amoureux, voilà, oh, c'est l'amour. Oui, non, mais c'est très bien, hein. Je suis amoureux aussi, hein. Mais ce qui a vraiment de la valeur, c'est l'amour et l'amour qui coûte. Là, ce papa, il a rien à attendre de ce fils. Il lui renvoie rien, alors que les amoureux, ils se renvoient l'un l'autre. Hein. Puis quand ça se renvoie plus, on divorce. Mais c'est de l'amour consacré, c'est de l'amour sacrificiel. C'est s'occuper de cet enfant devenu adulte, handicapé. C'est le soigner, c'est être patient, c'est l'aimer inconditionnellement. Et je ne doute pas que dans le parcours de ce papa, il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes. C'est difficile. Ce n'est pas une relation qui s'est construite dans la facilité. Et l'amour qui était visible, il ne s'est pas construit sans prix. Ça a un coût. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui ne peuvent se construire que dans la souffrance, que dans le coup. Et nous, si on veut être des personnes construites en Jésus-Christ avec des matériaux vraiment beaux, ben ce qu'il y a de la valeur coûte. Voilà. Et ça se construit dans l'épreuve. La beauté du caractère, la beauté d'un cœur vraiment qui est comme celui de Jésus, ça ne se construit pas dans la facilité, ça ne se construit pas sans valeur. Mais c'est précieux. Et c'est comme celui qui vend tout ce qu'il a pour acheter la perle de grand prix. Vous voyez, c'est dire, ça vaut le coup. Et là, Jacques nous dit, devenir quelqu'un de parfait, d'accompli, sans faillir en rien, un chrétien mûr, solide, qui connaît son Seigneur de près. Ah, ça, c'est un bijou. C'est une joie formidable. Est-ce qu'on veut aller vers ça? Alors je sais où le Seigneur veut m'emmener. Il veut m'emmener à la perfection, à la maturité, à la solidité, au caractère de Christ et à la joie. Le chemin par lequel il a prévu de m'y emmener, il y a de l'épreuve. Ce matin, la maturité, c'est est-ce que j'accepte que le Seigneur m'emmène dans ce chemin, dans sa pédagogie, par l'épreuve. Est-ce que j'accepte, par rapport aux choses douloureuses, difficiles qui peuvent m'arriver, de les voir comme Dieu me demande de les voir, de changer mon regard. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça, c'est le premier défi qui nous est lancé pour devenir des hommes et des femmes parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Il va falloir dire au Seigneur, Seigneur, maintenant, je veux poser un nouveau regard sur les épreuves, sur les difficultés, sur les trucs qui me font bondir, réagir, qui m'énervent. Si on ne prend pas cette décision, on va simplement être dans l'amertume. On peut être un chrétien qui est ballotté, le cœur aigri par les choses qui lui arrivent, etc. Ou alors, on peut dire au Seigneur, aujourd'hui je change mon regard. Je vais croire ce que tu me dis, que toute chose concourt à mon bien. Et quand il va m'arriver un truc, bien sûr c'est douloureux, ça fait mal, mais je vais me rappeler que c'est pas là juste pour rien, mais que si c'est là, c'est que c'est un élément que tu permets dans ma vie à partir duquel tu veux construire quelque chose de beau, quelque chose qui vaut la peine. Je décide de le regarder comme ça, je décide de le vivre comme ça. Prions. Seigneur, tu nous dis des choses difficiles ce matin dans ta parole à propos de toutes ces choses dans notre vie qui peuvent être douloureuses, désagréables, toutes ces épreuves. Et en même temps, tu nous donnes un véritable espoir et tu nous dis « joie, joie ». Seigneur, tu veux nous apprendre que les épreuves ne s'opposent pas au fait que nous puissions néanmoins avoir ta joie au fond de notre cœur. Nous voulons l'apprendre de toi. Nous voulons te dire, Seigneur, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Et je comprends que tu vas utiliser aussi des épreuves et des choses difficiles. Peut-être des gens difficiles. Des gens à qui je vais avoir affaire. Et ça va être mon épine. Mais Seigneur, je veux les regarder avec un nouveau regard. Si tu permets qu'ils soient là, c'est que tu vas construire à travers eux, à travers cette épreuve, tu vas construire de belles choses en moi, dans ma vie, et ça vaut le coup. Alors je veux être dans cette patience et traverser l'épreuve et m'en réjouir même par avance, comme une femme se réjouit du nouveau-né qu'elle attend. Au nom de Jésus. Amen.